Et après trois messages sur notre vie de famille au sein de cette église, au sein de cette grande famille qui est l'église, trois messages sur nos relations de couple, sur la vie célibataire, sur les relations entre parents et enfants, nous revenons aujourd'hui à la grande famille qui est l'église. La semaine prochaine, nous verrons que les mêmes principes qui gouvernent nos relations au sein de notre propre famille, la soumission les uns aux autres, une vie de sacrifice pour Jésus, l'importance de la discipline et du conseil, tout ça, nous verrons que ces mêmes principes s'appliquent à la vie de l'Église. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, avant de voir tout ça, il faut que nous nous rappelions de l'importance de cette famille. Il faut que nous voyons clairement notre mission, notre raison d'être. Et ça revient, bien sûr, à la mission de Jésus lui-même. Si Jésus est la tête de cette famille qui est son corps, c'est impossible d'imaginer que nous ayons une mission autre que la sienne. Ça n'aurait pas de sens. Si ma tête veut que j'escalade une montagne, mais mes pieds ne veulent que jouer au foot, bien évidemment, je ne vais pas arriver à faire ni l'un ni l'autre. C'est la tête qui dirige. Et c'est aux pieds d'obéir. Et sinon, notre cœur est malade, ou peut-être juste trop faible pour obéir. Et il faut voir le médecin, ou il faut voir un entraîneur, pour que notre cœur arrive à obéir à la tête. Une église qui ne participe pas à la mission de Jésus est une église malade. Ou faible, peut-être, ou immature. Mais dans tous les cas, c'est la parole qui est le médicament qu'il faut pour nous guérir, ou l'entraînement qu'il nous faut pour devenir plus fort, ou la nourriture qu'il nous faut pour grandir. C'est la parole qui va nous permettre d'avancer et d'obéir à notre tête, qui est Jésus. Et je ne suis pas là ce matin pour vous culpabiliser en disant que notre Église est malade. Mais nous pouvons toujours devenir plus forts. Nous pouvons toujours mieux appliquer la parole afin d'atteindre la stature parfaite du Christ, comme Paul dit en Éphésiens 4. Et en vous examinant ce matin, si vous voyez que votre mission, que votre but dans cette vie ne correspond pas à celui de Jésus, qui est notre tête, il faut admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra qu'on se repente par rapport à ça et qu'on retourne à sa vision pour notre vie. Parfois, il faut se repentir face à la parole. Et quelle est la mission de Jésus alors? C'est ça la question que nous allons nous poser. D'abord, rappelons-nous que même avant la venue de Jésus, l'humanité a toujours eu une mission. Depuis le début, en Genèse 2, Dieu a donné à Adam et Ève la charge de cultiver et de garder le jardin d'Éden en tant que son image, en tant que ses ambassadeurs. Je ne vais pas refaire tout le message que j'ai déjà fait sur ce passage il y a quelques mois. Mais souvenons-nous que l'idée de cultiver et de garder le jardin d'Éden n'était pas principalement une charge agricole. Cette charge était que l'humanité répande la présence de Dieu sur toute la terre. Notre mission en tant qu'être humain, a toujours été de faire répandre la présence de Dieu sur la terre. Le jardin d'Éden était comme un temple où la présence de Dieu se manifestait parfaitement. Et en le cultivant et en se multipliant, l'humanité allait élargir ce temple pour couvrir toute la terre, remplir l'univers de sa gloire. C'est l'idée depuis le début. À la base, la mission que nous avons revient toujours à ça, répandre la présence et la gloire de Dieu sur toute la terre. C'est une mission pour toute la vie. Voilà pourquoi l'Église est décrite comme un temple vivant, un temple qui se répand sur toute la terre avec la présence de Dieu en nous par son Esprit. Mais, comme nous savons tous, depuis Genèse 2, il y a un problème, parce que le péché est intervenu. L'image de Dieu en nous est brisée. Et la tâche s'est compliquée parce que notre relation avec Dieu est brisée. Et dès lors, répandre la présence de Dieu sur terre exige aussi et premièrement que les effets du péché soient réglés. Que la séparation qui existe entre nous-mêmes et Dieu à cause de nos péchés soit enlevée. Que nous soyons tous réconciliés avec Dieu, comme on a prié ce matin. Réconcilier avec Dieu et réconcilier les uns avec les autres. Voilà la mission de Jésus et la mission de l'Église, un ministère de réconciliation afin de répandre la présence de Dieu sur toute la terre. Voici comment Paul l'explique en Éphésiens 2, comme nous l'avons lu il y a quelques semaines. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. La paix avec Dieu et la paix avec les autres. Jésus est venu annoncer la paix. Ou bien Colossiens 1, 20. Et c'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Vous vous rendez compte? Réconcilier l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Si vous voulez une image de notre mission et une image de ce que Dieu veut faire, voilà Colossiens 1, verset 20. Mémorisez-le. Le ministère de Jésus est un ministère de réconciliation. Il annonce la paix que nous pouvons avoir d'abord avec Dieu et puis, grâce à cette paix avec Dieu, les uns avec les autres. Êtes-vous en paix avec Dieu aujourd'hui? Êtes-vous en paix avec Dieu? Sinon, venez me voir après le culte, s'il vous plaît, parce que vous pouvez l'être. Si la présence de Dieu va se répandre sur la terre, nous devons d'abord être réconciliés avec lui, chacun, pour que sa présence habite en nous. Si la présence de Dieu va se répandre sur terre, ça commence avec toi. Il faut commencer avec toi-même. Ce n'est pas la peine de penser aux autres avant de penser à toi-même. Êtes-vous en paix avec Dieu ce matin? Et dès que nous sommes en paix avec Dieu, dès que nous sommes réconciliés avec Dieu, sa mission de réconciliation devient la nôtre. Et pour voir comment nous sommes appelés à participer à cette mission de réconciliation, nous allons regarder le passage célèbre à la fin du livre de Matthieu ce matin, qu'on appelle souvent la Grande Commission. C'est après la mort et la résurrection de Jésus et avant son ascension à la droite du Père. On va lire ensemble. C'est Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, c'est pas Matthieu 20. Le diapo a une erreur. C'est Matthieu 28, dernier chapitre du livre de Matthieu. Parce que c'est la fin de l'histoire, dans un sens. Et c'est aussi juste le début, dans un autre sens. Mais en tout cas, c'est la fin du livre de Matthieu, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voilà, c'est la fin du livre. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. Et pour avoir la suite, il faut aller au livre des Actes, où les disciples font justement ce que Jésus leur dit ici sur cette colline en Galilée. Ils font des disciples et ils le font par la puissance de l'Esprit. L'Esprit du Christ qui est avec eux jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, c'est à la Pentecôte, le jour où nous fêtons la descente de l'Esprit sur l'Église en acte 2. Et ce passage que nous lisons aujourd'hui, c'est le contexte pour ce qui se passe en acte 2. Parce que c'est la mission que Jésus donne en Matthieu 28 qui va être accomplie par l'Esprit. C'est ce jour-là où l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est prêchée à toutes les nations. Et tous les peuples sont invités à être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, pour comprendre ce passage et notre mission en tant que famille de Dieu, voyons d'abord à qui Jésus parle ici. Il parle aux 11 disciples. C'est une phrase un peu surprenante et très poignante, je trouve, parce que tout au long du livre de Matthieu, nous lisons des 12 disciples. Mais l'un d'entre eux, Judas, avait trahi Jésus et il n'est plus avec eux. Il est mort. Oui, Jésus est ressuscité et donc tout va mieux maintenant. Jésus est victorieux, mais il reste quand même un côté tragique à cette histoire. Judas, leur ami, est perdu. Ils doivent persévérer sans lui. Les fidèles doivent fixer leurs yeux sur Jésus et avancer avec lui. Ils doivent travailler pour que le reste du monde ne partage pas le même sort que Judas, perdu pour toute l'éternité. C'est une image très forte quand on voit ce qui se passe après et quand on voit l'appel que Jésus donne. C'est presque comme s'il avait Judas en tête. Allez annoncer pour que ce n'arrive pas au reste du monde. Une autre phrase par rapport aux disciples qui peut être surprenante dans ce passage, c'est verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. D'habitude, nous prenons ce passage comme un discours pour motiver les troupes, pour inspirer les soldats pour leur mission. Et avec raison, Jésus donne sa charge à ses disciples. Mais c'est intéressant de noter que les disciples se prosternèrent devant Jésus, c'est-à-dire qu'ils l'adorent, mais que certains avaient des doutes, certains hésitaient. Des doutes par rapport à quoi? Nous ne savons pas. C'est possible que ces disciples qui hésitaient avaient des doutes par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Eux allaient-ils être crucifiés comme Jésus? Petite parenthèse, oui, certains allaient être crucifiés. Jésus allait-il monter au trône terrestre pour restaurer le royaume d'Israël? Autre petite parenthèse, c'est justement la question qu'ils vont poser en acte 2 ou en acte 1. En effet, nous ne savons pas ce qu'ils craignaient. Mais je trouve quand même rassurant de voir que même ces disciples-là, qui avaient le Jésus ressuscité devant leurs yeux, ils avaient des doutes, comme toi et moi parfois. Quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, quand on a peur d'avoir tort ou peur d'avoir raison et d'en souffrir, les disciples, certains avaient des doutes. Et Jésus n'a pas fait le tri. Il leur a donné cette charge quand même. Il n'a pas dit, ok, vous tous qui n'avez pas hésité, j'ai une charge pour vous. Et vous, le reste, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai plus besoin de vous. Ils étaient tous ses disciples. Ils étaient tous ses frères. Et il avait une mission pour tous. Comme il a une mission pour nous tous. Si nous sommes prêts à le suivre. Et une dernière chose, avant de parler des détails de cette mission, rappelons-nous ce que c'est un disciple. À la base, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui apprend de lui. C'est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend, non pas juste dans le sens d'accumuler de la connaissance, mais aussi dans le sens de savoir-faire, de savoir-vivre. Un disciple apprend à faire en imitant son maître. Nous voyons cela tout au long du livre de Matthieu, dans la manière dont les disciples suivent Jésus. Ils vivent avec Jésus. Et nous le verrons aussi quand nous parlons de la charge que Jésus donne. Obéir à tout ce que j'ai prescrit. Mais le point à retenir pour le moment, c'est que le terme « disciple de Jésus » devrait décrire la vie de chaque chrétien. Quelqu'un qui suit un maître. Quelqu'un qui suit Jésus. Un chrétien est quelqu'un qui suit Jésus et qui apprend à vivre à ses côtés. Où que tu sois ce matin dans ton cheminement avec lui, si tu as décidé de suivre Jésus comme ton maître, comme ton sauveur et seigneur, que ce soit il y a 5 minutes ou 50 ans, tu es son disciple. Et ce passage s'adresse à toi pour que tu puisses vivre une vraie vie de disciple. Tu as reçu cette charge de ton maître. Alors, regardons-la. Verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors, la charge principale dans ce passage est faire des disciples. C'est moins évident en français qu'en grec, mais les trois autres verbes, aller, baptiser, enseigner, sont tous une description de comment ce premier va s'accomplir, de comment faire des disciples. La mission que Jésus donne à ses disciples, c'est d'en faire d'autres disciples. Une personne qui suit Jésus est un disciple qui fait des disciples pour que ses autres puissent être réconciliés avec Dieu. Et en faire d'autres disciples à leur tour, pour que la famille grandisse. Dieu veut que sa famille grandisse. Il veut plus d'enfants. Il veut que cette terre soit remplie de ses enfants bien-aimés. Nous sommes des disciples qui faisons des disciples. Mais notons bien, quand nous faisons des disciples, nous ne faisons pas des disciples de nous-mêmes. Ce n'est pas nous le maître. La foi chrétienne, ce n'est pas une vente pyramidale où tu montes l'échelle en faisant des disciples en dessous de toi qui font des disciples en dessous d'eux et ainsi de suite pour que vous puissiez monter. Nous faisons des disciples parce que nous sommes des disciples de Jésus. Non pas de tel ou tel pasteur. C'est la tendance humaine de se rattacher à une personne. Et c'est également la tendance humaine de vouloir que les autres se rattachent à nous. C'est affirmant, c'est flatteur, mais ce n'est pas biblique. Si la personne ne s'attache pas à Jésus, nous n'avons pas fait un disciple chrétien. Nous avons fait un disciple de nous-mêmes. Et cela n'est pas la recette pour la réconciliation. Ça, c'est la recette pour la division. Et Paul, il a dû en parler, en fait, aux Corinthiens, parce que, justement, certains se disputaient sur la question de qui ils suivaient. Je vais lire 2 Corinthiens. En fait, j'ai perdu la référence, mais j'ai le texte devant moi. Alors, quand l'un dit, moi, je me rattache à Paul, et un autre, moi, à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, moi Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui donne la croissance. Il ne faut pas imaginer quand on reçoit une charge comme celle-ci, que ça va être nous qui le fait marcher, qui le fait fonctionner. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, c'est Jésus. Et nous ne faisons pas de disciples de nous-mêmes, nous faisons des disciples de Jésus. N'oublions jamais que nous ne sommes pas là pour faire des disciples de nous-mêmes et nous ne sommes pas là pour être des disciples de qui que ce soit, sauf Jésus. Oui, nous pouvons apprendre des autres. Nous devons apprendre des autres. Nous allons voir. Nous pouvons apprendre des pasteurs et des frères et des sœurs en Christ. Mais méfions-nous d'une attitude de disciple envers des personnes. Une attitude qui accepte ce qu'ils disent comme si c'était infaillible. Il y a certains pasteurs, certains commentateurs que j'apprécie beaucoup. Et j'achète tout ce qu'ils publient. C'est un problème parce que ça devient cher après un certain moment. Mais je l'achète parce que je le trouve tellement édifiant. Mais si je me trouve en train de lire sans jamais me poser la question, est-ce vrai ce qu'il dit? Ça veut dire que je suis en danger de mettre cette personne-là à la place de Jésus dans ma vie. Je ne suis pas un disciple de tel ou tel pasteur, aussi utile que soit leur prédication. Je suis un disciple de Jésus. Et vous, pareil, si jamais nous faisons une étude de disciples ensemble, toi et moi, ce n'est pas pour faire de toi un disciple de Jérémie. C'est pour te faire avancer dans ta vie de disciple avec Jésus. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens me voir pour qu'on puisse trouver quelqu'un pour t'aider. Pas forcément moi. Mais si vous voulez avancer dans votre vie de disciple, l'Église est là justement pour aider. Alors, justement, regardons le deuxième verbe dans la phrase. Après le commandement principal de faire des disciples, qu'est-ce qu'on a? Aller. Et plus littéralement, en allant faire des disciples. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose que les disciples doivent faire et c'est quelque chose qui va arriver d'une manière ou autre, s'ils veulent ou pas. Jésus sait que beaucoup des disciples vont être obligés d'aller à cause de la persécution. À cause de la persécution, les disciples de Jésus vont se trouver dispersés partout dans le monde. Certains comme Paul et Barnabas, en Actes 13 et 14, vont partir exprès pour annoncer l'Évangile, pour faire des disciples. Mais d'autres vont être dispersés contre leur gré. Nous avons vu, quand nous avons étudié le livre des Actes, en Acte 11, nous avons l'histoire de ceux qui étaient chassés de leur pays après le martyre d'Étienne. Ils étaient des réfugiés, mais des réfugiés missionnaires. Parce que quand ils sont arrivés à Chypre et à Antioche, ils ont annoncé la parole et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous n'avez jamais imaginé que si vous étiez réfugié, si vous devez fuir votre pays, que vous seriez ainsi un missionnaire? C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit, ben, cela n'est pas un voyage missionnaire, nous sommes des réfugiés, on va se taire alors, et puis on peut planifier un voyage missionnaire pour l'année prochaine. Non, ça n'aurait eu aucun sens. Comme quelqu'un qui attend samedi pour faire l'évangélisation à la gare, alors qu'il n'avait jamais parlé de Dieu avec ses camarades ou ses collègues. Il ne faut pas attendre un grand événement, un voyage missionnaire ou une campagne d'évangélisation pour annoncer la parole. Chacun de vous, chacun de nous va quelque part chaque jour. Mais où que ce soit où vous allez, en allant faire des disciples. Et ça veut dire que parfois, il faut absolument sortir de notre zone de confort. Il faudra traverser le couloir pour parler avec votre collègue athée. Il faudra sortir de la maison pour venir au séminaire sur l'évangélisation. Il faudra oser parler aux gens devant la gare. Sinon, comment vont-ils entendre? Et s'ils n'entendent pas, comment vont-ils croire? Alors, si en allant, nous faisons des disciples, ça soulève quand même la question, comment? Comment faire des disciples? Et je ne vais pas refaire tout le séminaire sur l'évangélisation que Père a tellement bien fait samedi dernier, mais comme j'ai dit, je vous invite à venir ce samedi. Et je vais quand même maintenant résumer l'essentiel. Parce qu'il faut connaître l'essentiel. La vie d'un disciple de Jésus commence en donnant sa vie à Jésus. Et pour ça, il faut savoir comment donner ma vie à Jésus. Il faut savoir comment faire, comment dire pour qu'un autre puisse faire. Alors, voilà l'essentiel. Nos péchés nous séparent de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour payer pour ses péchés, et nos péchés sont pardonnés gratuitement dès que nous mettons notre foi en lui. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. Mais il faut l'avoir en tête pour savoir que ça, c'est le but. Même si je commence par là, quand je parle avec quelqu'un, je dois savoir que c'est le but où on va. Nos péchés nous séparent de Dieu. Jésus est mort et ressuscité afin de payer pour ses péchés, et ses péchés sont pardonnés gratuitement dès que nous mettons notre foi en lui. Si vous n'avez jamais compris ça pour vous-même, je vous encourage, je vous supplie, priez Dieu pour accepter ce don gratuit. Ce n'est pas par vos œuvres que vous seriez sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Si vous imaginez qu'un jour, en venant à l'église ou en priant, qu'un jour vous allez mériter la vie éternelle avec Dieu, je suis désolé, mais vous vous trompez gravement et vous vivez dans l'illusion. Nous sommes sauvés par pure grâce. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et ça par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Notez-le. Éphésiens 2, 8. C'est ça le message essentiel que nous devons partager et qui permettrait à l'autrui d'être réconcilié avec Dieu. Si nous avons une mission de réconciliation, il faut savoir comment les gens peuvent être réconciliés avec Dieu. Et c'est comme ça qu'ils peuvent commencer une vie de disciple. Alors, il faut la sagesse et la direction de l'esprit pour trouver la meilleure façon de communiquer cette vérité dans telle ou telle situation. Crier aussi fort que possible au coin de la rue pourrait être une façon efficace dans certaines situations, mais franchement, probablement pas. Nous voyons dans la vie de Jésus et dans le livre des Actes plusieurs différents types de prédications et de conversations qui peuvent avoir lieu pour annoncer la parole. Ce n'est pas la méthode qui compte, c'est la puissance de la parole, c'est la puissance du message. Un message qui dit que vous pouvez être réconcilié avec Dieu gratuitement. Alors, si nous annonçons cette parole, nous allons venir au prochain verbe dans ce verset, baptiser. Nous allons bientôt avoir un culte de baptême. Et à ce moment, au culte de baptême, je vais parler de toute la riche signification de cet événement. Mais pour aujourd'hui, je veux juste souligner tout simplement que le baptême est, parmi autres choses, c'est le signe d'entrée dans la famille de Dieu. C'est le signe de la réconciliation qu'on a avec Dieu et ainsi avec les autres membres de la famille. En instruisant ses disciples à baptiser les nouveaux disciples, Jésus affirme que la vie d'un disciple n'est pas à vivre seul. C'est une affaire de communauté. On ne peut pas se baptiser soi-même. Il faut au moins une autre personne. Mais même là, ça ne s'arrête pas là. Parce que l'idée est que ça nous fait entrer dans une communauté. Et nous sommes une communauté très particulière. Je ne sais pas si vous avez constaté. Mais nous sommes une communauté très particulière. C'est la communauté qui a Dieu le Père comme notre Père et Jésus le Fils comme notre frère et l'Esprit Saint qui nous unit tous parce qu'ils habitent en nous. Et tous ces trois-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont tous les trois Dieu. C'est la particularité du christianisme. Un Dieu en trois personnes. Et c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est ce Dieu qui définit notre famille et qui nous unit. Alors, soyons clairs quand même. Alors que le baptême est le signe de notre entrée dans cette famille de Dieu et un signe très puissant, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui nous fait un enfant de Dieu. Le baptême est un pas d'obéissance que nous faisons après notre salut, après avoir été réconciliés avec Dieu. C'est en croyant que nous devenons enfants de Dieu. Jean 1,12, mémorisez-le. Jean 1,12. Quand nous baptisons quelqu'un, nous accueillons un frère ou une sœur qui fait déjà partie de la famille et nous nous engageons à l'accompagner sur son chemin de disciple. De son côté, celui qui se fait baptiser s'engage publiquement à vivre une vie de disciple. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère, ni pour le baptisé, ni pour la communauté qui baptise. Alors, d'où l'importance du dernier verbe dans ce passage, enseigner. Enseignez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Enseigner à obéir. C'est une grande mission que nous avons en tant que famille spirituelle. Comment est-ce qu'on enseigne quelqu'un à faire quelque chose? Ça commence en partageant une certaine connaissance. Bien sûr, si je mets ma fille sur un vélo pour la première fois sans lui dire quoi que ce soit par rapport à ce que c'est un vélo, et je lui dis, je suis à côté de toi pour t'aider, mais débrouille-toi maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber tout de suite. je dois lui donner des conseils. Mets tes pieds là, mets les mains là, regarde là devant toi, et ainsi de suite. Ça commence par une certaine connaissance. La vie d'un disciple commence en connaissant la vérité par rapport à nos péchés et par rapport à la personne de Jésus. Et la vie d'un disciple continue en assimilant de plus en plus la vérité de la parole, en étudiant la parole, en méditant sur la parole, en passant du lait à la viande, comme Paul dit. Mais clairement, ce n'est pas juste une question de connaissance non plus. On peut connaître tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à connaître sur un sujet sans être capable d'en faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Nous avons tous connu des gens comme ça au travail. Des gens qui connaissent tout, mais pour rien faire. Imaginez-vous ce qui serait passé si j'avais pris Myriam à l'âge de 3 ans et l'avais placée à côté de moi à la table pour lui expliquer comment ça fonctionne, un vélo, avec des images et tout cela. Et voici, tu as les pédales, et en appuyant sur les pédales, la chaîne va avancer, ça va tourner ce truc-là, et voilà, ainsi de suite. Et puis, je l'envoie dans la rue seul, avec son vélo, et moi, je reste à la maison, assis dans mon fauteuil. C'est horrible d'imaginer un papa comme ça. Et bien sûr, ce n'est pas ce que Jésus fait avec ses disciples, ni ce que nous sommes appelés à faire quand nous faisons des disciples. Jésus nous enseigne la vérité, et puis il reste à nos côtés pour nous aider à la vivre. Et il nous met les uns à côté des autres pour enseigner et pour apprendre ensemble. La vie d'un disciple de Jésus n'est pas une vie de connaissance sans action, mais ce n'est pas une vie d'action sans connaissance non plus. C'est une vie d'action dirigée par la connaissance, une vie d'obéissance dirigée par la vérité. La connaissance qu'il nous donne par sa parole et dans le renouvellement de notre intelligence par son esprit. Si nous allons prendre la grande commission de Jésus au sérieux, si nous allons vivre notre mission de réconciliation, nous devons être capables d'enseigner les uns les autres. Et cela d'une façon qui permet aux gens d'obéir. Peut-être vous dites, mais attends, moi je n'ai pas le don d'enseigner, je n'ai pas le don d'évangélisation. Comment pourrais-je participer à cette grande commission alors? D'abord, rappelons-nous, comme Pierre l'a dit samedi, même si nous ne sommes pas tous évangélistes, nous pouvons tous témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Nous pouvons tous raconter cette vérité fondamentale que nous avons vue ce matin. Cette vérité sur le pardon que nous avons en Christ et la foi qui nous sauve. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Ça fait partie de la vie d'un disciple. Mais rappelons-nous aussi qu'il y a beaucoup de manières d'enseigner aussi. Et ils sont tous importants. Vous voyez, quand j'étais là avec ma fille pour apprendre à faire du vélo, après avoir expliqué les bases du vélo à Myriam, nous sommes sortis, elle et moi, ensemble dans la rue. Je l'ai poussée pour commencer. Et puis j'ai couru après pour la tenir stable. C'est du travail. Je l'ai ramassée quand elle est tombée. J'ai soigné ses blessures. Je lui ai fait un petit discours d'encouragement. Je lui ai donné à boire. Et puis j'ai poussé le vélo à la maison quand c'était l'heure de rentrer et elle était trop fatiguée pour continuer. Alors, dans l'occurrence, j'ai fait tout ça moi-même. Mais il y avait assez de travail pour toute une équipe. C'est du travail enseigner un enfant à faire du vélo. Si ma femme et mes parents et mon frère et sa femme et ses enfants, s'ils étaient tous là, il y aurait de quoi faire pour chacun. On aurait pu enseigner à Myriam à faire du vélo en équipe, en famille. N'imaginons jamais qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde dans la mission que Jésus nous donne. Nous ne devons pas laisser la proclamation de l'Évangile aux évangélistes dans cette assemblée. Et nous ne devons pas laisser l'enseignement aux pasteurs. C'est trop de travail. Oui, certains vont être appelés à une tâche particulière pour enseigner devant l'assemblée. Mais ton frère et ta sœur peuvent apprendre autant sur l'obéissance en te voyant faire une petite chose, un petit moment de gentillesse, un petit mot de sagesse, une décision difficile, mais juste, que tu prends. Il peut apprendre autant de toi dans une telle situation qu'en écoutant le prédicateur parler pendant 40 minutes. Mais il faut oser parler de ce que nous avons appris, de nos erreurs et nos échecs autant que nos réussites. Et il faut également continuer à apprendre et à étudier nous-mêmes, étudier la parole, afin d'apprendre à mieux enseigner la vérité. Le ministère de la réconciliation est à nous tous. Le monde a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Nos voisins ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nos proches ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ils ont besoin de la paix. Faire des disciples est une charge pour nous tous. Nous avons chacun un rôle à jouer dans cette famille. Certains vont planter, certains vont arroser, mais c'est Dieu qui donnera la croissance. N'oublions jamais que cette charge que Jésus nous donne commence par la proclamation de son autorité et elle se termine par la promesse de sa présence. Il faut relire ce passage et noter bien, ça commence par la proclamation de son autorité et ça se termine par la proclamation de sa présence. Il n'y a pas d'autre chose dans le monde qui peut nous encourager plus que ça. Depuis sa résurrection, Jésus a toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Nous faisons tout ce que nous faisons sous cette autorité et par cette autorité. Et quand nous ne sommes pas à l'auteur, parce que personne d'entre nous n'est à l'auteur de cette belle mission, quand nous ne sommes pas à l'auteur, c'est sa grâce qui nous relève et c'est sa puissance qui accomplit ce que nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui fait grandir. Prions maintenant que Dieu nous montre comment nous pouvons faire des disciples. Quel est notre rôle dans cette mission? Quel est ton rôle dans cette mission? Et si tu veux prier avec quelqu'un à ce sujet, ou si tu veux devenir disciple de Jésus en mettant ta foi en lui, je t'invite à venir prier avec quelqu'un. Pendant que nous chantons nos deux derniers chants, j'aimerais inviter les musiciens à venir. Je vous encourage, chantez, priez là où vous êtes ou avec quelqu'un maintenant pour vivre une vie de disciple.
Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant.